Vous avez peut-être déjà lu ou entendu ce texte souvent cité du philosophe Michel Foucault. C'est un extrait d'un article qui accompagne en appendice son histoire de la folie, auquel je pense beaucoup en ce moment, où l'on s'interroge sur la santé mentale de nos jeunes, mais pas seulement, sur le dehors et le dedans, sur les limites de l'enfermement. Foucault écrit, et c'est passionnant, « Peut-être qu'un jour, on ne saura plus bien ce qu'a pu être la folie. Tout ce que nous éprouvons aujourd'hui sur le mode de la limite ou de l'étrangeté ou de l'insupportable aura rejoint la sérénité du positif. Et ce qui pour nous désigne actuellement cet extérieur risque bien un jour de nous désigner nous. Restera seulement l'énigme de cette extériorité. Quelle était donc, se demandera-t-on, cette étrange délimitation qui a joué depuis le fond du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle et au-delà peut-être? Pourquoi la culture occidentale a-t-elle rejeté du côté des confins cela même où elle aurait pu aussi bien se reconnaître? Ou de fait, elle s'est elle-même reconnue de manière oblique? Pourquoi a-t-elle formulé clairement depuis le XIXe siècle, mais aussi dès l'âge classique, que la folie, c'était la vérité dénudée de l'homme et l'avoir pourtant placée dans un espace neutralisé et pâle où elle était comme annulée? Pourquoi avoir accueilli les paroles de Nerval ou d'Artaud? Pourquoi s'être retrouvée en elle et pas en eux? Michel Foucault, 1964.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel territoire de la psyché explore mon invité d'aujourd'hui? Par la littérature, elle s'aventure aux frontières du dehors et du dedans, des marges et du centre, de l'invisible et du visible, à la folie. Son nouveau livre vient tout juste de paraître, c'est le compte-rendu d'une immersion d'un an dans deux unités psychiatriques, un témoignage saisissant sur une réalité qui nous échappe à travers le regard de patients et de soignants. Bonjour Joyce Armand.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous
ce
matin.
Merci à vous.
Quel est le prix de l'enfermement? Vous avez fini par le déceler.
Le prix de l'enfermement, c'est un prix ambigu en fait. On enferme les fous. On les a pas toujours enfermés dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des époques où les fous étaient dans les villages, étaient choyés, étaient aimés, étaient protégés. Et puis il y a d'autres époques qui cristallisent de plus en plus où on s'est mis à enfermer les fous. Alors pourquoi est-ce qu'on les enferme? Est-ce qu'on les enferme pour protéger la société de la folie? Ou est-ce qu'on les enferme pour les protéger, eux, les fous, pour les protéger de la violence qu'ils pourraient s'infliger à eux-mêmes? Et en fait, cette question, on peut pas la trancher. Moi, j'ai pas réussi à la trancher après un an passé là-bas.
De ce que vous avez observé, peut-on trouver la liberté quand on est enfermé, Joyce Armand?
C'est difficile. Il y a des poches de liberté dans l'enfermement, c'est-à-dire que, de manière très pragmatique, très concrète, c'est sortir dans le jardin, fumer une clope, c'est recevoir une visite, c'est passer un coup de fil, c'est avoir le droit d'aller une après-midi au centre commercial ou manger une pizza. Donc il y a des poches de liberté comme dans tout système carcéral. Et puis après, il y a la liberté qui est arrachée. C'est-à-dire que les patients qui sont enfermés sous contrainte, ils vivent comme des prisonniers, précisément. Et ils essaient sans cesse de saboter cette privation de liberté. Donc ils cachent des affaires interdites dans les faux plafonds, ils sabotent la distribution de médicaments, ils s'échangent des cartes SIM pour téléphoner.
Et que représente l'espace du dehors pour ces patients, justement, pour ces hommes et ces femmes?
Alors l'espace du dehors, c'est pas l'espace toujours désiré, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la plupart disent « je veux sortir », me parlent de voir à nouveau le ciel, voir à nouveau les arbres, de tout ce qu'ils feront dehors. Ils pensent toujours à tout ce qu'ils feront dehors. Et souvent c'est écouter le chant des oiseaux et manger un kebab, des choses aussi simples. Mais il y a aussi ceux pour qui le dehors c'est la terreur. Ce qui se passe derrière la porte de l'hôpital psychiatrique, c'est ce qu'il y a de plus angoissant.
Est-ce que ce dont vous témoignez dans votre livre, c'est absolument passionnant, c'est que cet espace, en tout cas, ils sont de plus en plus coupés de leur quotidien à l'hôpital, de plus en plus. Ça, vous avez pu l'observer?
C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique, c'est une espèce de micro-société avec ses horloges, ses horaires, cette espèce de dérèglement du temps où le temps est flasque, il s'étire à l'infini. On n'est pas dans la même temporalité, dans la même durée que dehors. Il y a quelque chose de tout à fait distendu, où le quotidien ne fonctionne que par la répétition des mêmes choses. C'est vraiment un jour sans fin. C'est en ce sens-là aussi que l'hôpital est isolé du monde.
Mais comment la frontière entre l'hôpital et le monde extérieur s'est progressivement durcie? Parce que c'est ça que vous racontez aussi.
Oui, c'est vrai que ce que je raconte au tout début du livre, c'est que j'arrive devant des hauts murs et que je me demande comment est-ce qu'on passe ces murs, et que moi-même je vais passer une série de sas, de portes verrouillées pour pénétrer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un long cheminement. Donc il y a ces hauts murs qui coupent de la ville, et finalement cet enfermement et cet isolement, il a une origine historique. C'est-à-dire que pendant longtemps, la psychiatrie relevait du médical. Et puis, la psychiatrie, Foucault d'ailleurs en parle très bien, a glissé vers le domaine de la justice. Oui. Tout d'un coup, c'est le juge, c'est le préfet qui décidait si on enfermait ou pas. Et donc, cette espèce de passage de la médecine à la justice, même si la médecine exerce évidemment toujours dans l'hôpital psychiatrique, a accentué cet isolement. Parce qu'en fait, le fou, on l'enferme non pas pour un crime qu'il aurait commis, mais pour le crime qu'il pourrait commettre.
Et l'un des soignants que vous interrogez dit par exemple que du temps où les patients avaient plus d'autonomie, ben, il n'y avait pas plus de fugues. Qu'est-ce que ça dit de l'effet et du poids de la contrainte, de la règle, de la frontière sur l'esprit humain, Joyce Ormond?
Oui, c'est vrai que là aussi, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que les infirmiers et les vieux de la vieille, comme on dit, qui ont connu la grande époque de la psychiatrie des années 60 à 90, où justement il y avait beaucoup plus de liberté, constater ça, qu'on les enferme à clé ou non, il y a pas plus ou moins de fugue. Ben, ce que ça dit, justement, c'est que l'enfermement, même s'il est imposé du dehors, en fait, le fou, et j'utilise le mot fou, j'espère que tout le monde l'entend avec bienveillance et empathie, le fou, il sait lui-même, malgré sa folie, s'il a besoin de cet enfermement ou pas. Celui qui a peur du dehors, il va pas fuir. Celui qui pense que son enfermement est illégitime, il va sortir. Donc c'est le jugement du fou lui-même qu'on devrait écouter.
Comment vous réagissez, vous, face à la contrainte? Là, je parle autant à la femme qu'à l'écrivain.
Alors moi, j'adore les contraintes dans l'écriture. J'aime beaucoup qu'on me passe des commandes, qu'on guide mon écriture. J'ai écrit plusieurs livres qui sont des livres justement en immersion, comme ça, sur des terrains. Donc je suis assez friande de la contrainte. En tant qu'être humain, je pense que personne ne la désire. Mais ce qui m'a fasciné à l'hôpital psychiatrique, c'est justement la façon dont les enfermés, la subissent et en sont révoltés, mais la déjouent sans cesse.
En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, ce dont témoigne votre livre, c'est l'impasse dans laquelle se trouve la médecine psychiatrique. Il y a des raisons économiques et financières qui sont les mêmes que celles qui pèsent sur l'hôpital public, mais à cela s'ajoutent des raisons culturelles. Au fond, quel regard porte-t-on sur ceux que l'on désigne comme fous, aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il y a eu un virage dans le regard qu'on portait sur les fous, qu'on peut originer dans plusieurs faits d'actualité politique, historique. Il y a eu le fameux discours de Sarkozy après qu'un fou a assassiné une infirmière, où ça a produit une grande émotion dans la société, et ça a été l'occasion pour le politique de raviver la peur. Oui. Et de à nouveau de confondre le meurtrier et le fou. Et puis justement, vous parliez tout à l'heure de cet enfermement architectural d'une certaine façon. Comment sont conçus les hôpitaux psychiatriques la plupart du temps derrière des hauts murs? Comment est-ce qu'on peut regarder justement avec empathie et bienveillance ce qui est soustrait au regard, ce qui est désigné comme dangereux parce que il y a un mur de 6 mètres de haut qui nous empêche d'y accéder?
On dit que les protocoles ont été mis en place pour des économies, mais ont bon dos, hein, les économies. Pour moi, c'est tout un esprit maléfique, du sadisme, une passion pour l'ordre. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas en psychiatrie? Parce que le protocole, c'est la globalisation, le contraire du singulier, sa mise à mort. Dans un protocole, on ne soigne pas un fou, mais les fous. Fou, c'est le bon mot, mais uniquement au singulier. Si on dit les migrants, si on dit les fous, on n'envisage plus que des groupes, des masses. Comment être empathique, bienveillant? Pas d'individu, pas d'affect. C'est un extrait de votre livre, Joyce Ormond. Dans quelle mesure la littérature, c'est précisément le lieu qui rend possible l'expression du singulier?
Oui, c'est exactement pour moi le nerf du livre. C'est-à-dire que on a pu me dire, mais pourquoi est-ce que tu as choisi la forme littéraire pour parler de la folie? Pourquoi pas un essai? Pourquoi pas un reportage journalistique? Et c'est précisément pour ça. C'est-à-dire que la littérature, c'est le lieu de la singularité. C'est le lieu du personnage, par définition. Le roman, c'est le lieu de l'invention du personnage. Donc c'est vraiment un espace où on peut isoler, prendre des affects, des psychés qu'on ne parle jamais en général dans un livre. L'individuel peut mener à l'universel, mais on ne parle jamais en général, contrairement à un essai ou à un reportage. Et Pour moi, la littérature, la forme littéraire, pour cette raison, coïncidait tout à fait avec la pratique psychiatrique. Parce que c'est ce que dit cette psychologue à la fin du livre. Elle me dit, c'est la seule discipline médicale dans laquelle on ne peut soigner que individuellement. Il n'y a pas de schizophrène pareil, il n'y a pas de bipolaire. Quand vous soignez un cancer du sein, il y a des protocoles qui valent pour tout le monde. Mais en psychiatrie, elle me dit, idéalement, il faudrait un médecin, un infirmier, par patient, par histoire personnelle, par délire, par vision, et dès qu'on passe à deux, et dès qu'on met ensemble deux schizophrènes, et ben on n'a rien compris et on rate le soin d'une certaine façon.
Celle qui est singulière dans cette émission, Joy, c'est la culture et son actualité absolument unique et qui bénéficie d'un suivi hyper personnalisé. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 5 février ? Didouda, Jane Birkin recevra une victoire d'honneur lors de la 36e cérémonie des victoires de la musique qui aura lieu le 12 février en direct de la scène musicale. Mais sans public, Vanessa Paradis, Thomas Dutronc ou Eddie de Pretto devraient monter sur scène pour lui rendre hommage en interprétant quelques-uns de ses plus célèbres morceaux. À noter que la chanteuse franco-britannique qui vient de révéler Oh pardon tu dormais, un nouvel album réalisé avec Étienne Dao dont ils étaient venus parler à ce micro, a déjà reçu une victoire de la meilleure interprète en 1992 à VJNB. Very Good Script. Dans une tribune relayée hier sur le site de Télérama, le collectif Parole de scénaristes dénonce un statut d'esclave moderne et réclame à Roselyne Bachelot la mise en place d'états généraux du scénario. Depuis l'hiver dernier, grâce à un appel à témoignages, le collectif met à jour les conditions de travail indignes et dégradantes dans lesquelles évoluent les créateurs depuis des années. Travail gratuit, précarité financière, abus de pouvoir, réappropriation de notre travail. Il est urgent d'encadrer l'écriture, disent-ils. Force.
Effectivement, c'est un roman d'enfant, mais c'est aussi un roman d'adulte. Il y a beaucoup d'adultes dans ce roman.
À deux, c'est toujours mieux. Ce n'est pas une, mais bien deux lauréates qui se sont vues attribuer hier ex aequo le prix du roman Métis des lycéens 2020, Kauter Adimi, pour Les Petits de décembre, fresque algérienne de révolte et de jeunesse parue au Seuil. Caroline Laurent pour son roman d'exil et d'insoumission, Rivage de la colère, aux éditions Les Escales. You go, girls.
Vous avez le pouvoir de changer les choses. Secours Pop, la grande soirée, 21h05 sur France 2, en partenariat avec France Inter.
Et enfin, à l'initiative du Secours Populaire Français et de Daphné Burki, France 2 diffusera demain soir Secours Pop, la grande soirée. Un programme qui mêlera humour et musique autour d'une grande tombola pour lutter contre l'exclusion et venir en aide aux personnes vulnérables. Diffusée en direct du Cirque d'Hiver, la soirée réunira de nombreux artistes solidaires dont Florence Foresti, Jean Dujardin, Josiane Balasco, M, Vanessa Paradis, Catherine Ringer, Louane, Benjamin Violet, beaucoup d'autres. Secours Pop au top. Et l'autrice Joyce Ormond, invitée de Boomerang ce matin pour ce livre qui m'a fasciné, je dois dire, à la folie, qui est le résultat d'une immersion pendant un an dans le monde de la psychiatrie. Et c'est pas la première fois que vous pénétrez un univers, effectivement, ou un lieu qui vous est complètement étranger. Vous parliez d'immersion tout à l'heure. Je pense évidemment à votre essai L'Inhabitable. Je pense à Gare du Nord. Et même dans une certaine mesure à Comme des Bêtes auprès des bouchers de Rungis. En quoi écrire pour vous, c'est précisément explorer, ce que l'on ne sait pas?
Bah, écrire déjà, c'est aller dehors, quoi. C'est, en tout cas pour moi, je dirais que c'est ce qui me motive, c'est ma libido d'écriture, c'est sortir de mon propre espace. On peut trouver les ressources en soi. Moi, je les retrouve ailleurs, et c'est vrai que c'est cette idée de l'altérité, du méconnu et du différent de moi qui me motive. C'est-à-dire que j'écris aussi pour connaître autre chose que moi-même et autre chose que mon monde. Donc c'est mon fonctionnement désirant, on va dire.
Mais si l'écrivain est pour vous la figure de quelqu'un qui ne sait pas, c'est une posture littéraire absolument fascinante, très importante à mon avis et intéressante. Pour autant, tout le monde ne le voit pas comme tel. Cette figure de l'écrivain que vous incarnez, Joyce Ormond, comment est-ce qu'elle a été perçue par les patients, par les soignants des unités où vous vous êtes rendu? Comment vous regardez?
Ma présence était assez incongrue au départ. Il y a un médecin, donc un chef de service, qui a fini par me donner l'autorisation de passer un an dans son pavillon. Ça a été très difficile d'obtenir l'autorisation. Et puis le premier jour, alors je me suis présentée évidemment avant aux patients et aux soignants, mais le premier jour, j'étais vraiment comme une espèce de gros caillou posé au milieu du service. On passait autour de moi, on me regardait, on m'évitait, ou au contraire, on avait envie de me parler. Mais c'est vrai que cette expérience d'écriture, c'est aussi une expérience de la place, c'est-à-dire comment trouver sa place.
Et précisément,
aussi en tant qu'écrivain.
Quelle place est-ce que vous avez fini par trouver au terme de cette expérience, au bout d'un an?
Je crois que j'ai pas trouvé ma place en fait. J'ai toujours été une présence à la fois, alors finalement familière, qui pouvait être tout à fait amicale et qui pouvait aussi être mal perçue par d'autres comme une perturbatrice, une voyeuriste qui venait justement perturber l'activité du soin qui était déjà assez compliquée.
Une intruse,
oui, complètement. L'étrangère, alors ça s'est un peu apaisé parce que c'est pour ça que je voulais y rester un an. C'est pour que des liens se tissent, c'est pour que ma présence devienne familière. C'est pour aussi que moi je commence à comprendre un peu quelque chose, parce que déjà au bout d'un an j'avais rien compris, mais si on passe en coup de vent vraiment on voit rien. Mais voilà, je devais pas être là normalement, donc ça a pu donner le meilleur dans des liens forts et dans des paroles qui se sont échangées, mais c'était pas toujours le cas non plus.
Mais c'est intéressant que vous parliez de place, Joyce Ormond, parce que j'ai l'impression que trouver votre place, ça a jamais été une évidence pour vous. D'où vous vient l'intérêt que vous avez pour les marges que vous ne cesser d'investir à travers votre écriture?
Je pense que c'est précisément parce que je viens d'une place centrale. C'est-à-dire que je ne suis pas une minoritaire, moi. Je suis une bourgeoise. Je viens d'une famille aisée. C'est-à-dire que je suis du côté du majoritaire. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ailleurs. Donc je suis portée vers le minoritaire de façon assez mécanique.
Mais vous vous êtes sentie contrainte dans votre vie et dans votre expérience, au fait, de vie, par cette domination, par cette majorité, comme vous dites?
Oui, c'est vrai que, alors ça peut paraître un peu prétentieux de le dire, mais c'est pas toujours confortable en réalité d'être majoritaire, d'avoir le pouvoir et d'être du bon côté. On peut en concevoir une certaine mauvaise conscience. Alors on pourrait débattre sur la légitimité de cette mauvaise conscience,
oui.
Mais c'est comme si c'est un poids aussi finalement d'être du bon côté.
Contre lequel vous vous êtes rebellé?
Rebeller peut-être pas, parce que j'étais quand même assez sage, mais en tout cas j'ai voulu en sortir, j'ai voulu l'hybrider avec quelque chose d'autre, parce qu'on n'échappe pas à son milieu.
Mais c'est passionnant, hein, parce que c'est ça cette question centrale, comment on fait pour approcher les marges, pour écrire sur les marges quand on n'en fait pas partie. J'ai l'impression que cette question de la légitimité, vous la posez encore.
Je me la pose toujours et je pense que tant que je continuerai à écrire, je me la poserai, parce que c'est aussi une des motivations de l'écriture.
Et le rapport de classe, la question des rapports de classe est absolument centrale dans votre livre également. Je cite « Écoutez pas leurs conneries égalitaires », vous dit Adrienne, une agent de service hospitalier. « La folie, c'est comme se retrouver à la rue, ça tombe pas sur n'importe qui. » Page 91. « La folie, ça tombe sur qui ?» Joyce Ormond.
Alors à l'hôpital public, parce que je tiens à préciser que j'étais à l'hôpital public, j'étais pas dans une clinique privée, je pense que là on est dans un autre monde. À l'hôpital public, la folie, ça tombe sur les prolos, hein. Ça tombe sur les précaires, ça tombe sur les migrants, ça tombe sur les pauvres, comme à la prison. Voilà.
Et en ce sens, qu'est-ce que ça raconte de notre société? De quoi est-ce que c'est le reflet?
Alors, ça raconte déjà le poids de l'histoire personnelle, parce que outre la précarité sociale, quasiment tous les patients que j'ai rencontrés avaient une histoire de violence. Il y a du viol, il y a de l'inceste, il y a de la violence conjugale, enfin il y a énormément de souffrance et de brutalité. Donc à la précarité sociale s'ajoute une précarité affective. Et puis c'est surtout que il n'y a pas justement une espèce de ceinture de protection comme il peut y avoir chez les gens plus aisés,
oui.
Où on va étouffer l'affaire,
oui.
On va les envoyer chez des psys en ville, des cliniques privées. Il y a quelque chose qui se met en place autour de la maladie mentale. Alors que souvent, dans les milieux plus pauvres, les gens sont seuls.
On va continuer à raconter, à parler de reflets, de mots. Juste après, vous l'avez reconnu, Radiohead, Creep, en 1993, sur l'album Pablo Honey. Vous êtes sur France Inter, avec Joyce Ormond, vous écoutez Boomerang, à la folie.
When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world.
I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Augustin Trapenard.
Elle ressemble à la Didgette de vos nuits les plus secrètes. Le visage lumineux, l'œil empathique, le cheveu coupé court. Elle dégage un mélange d'autorité et de bienveillance dont on a tous et toutes besoin. Les lendemains de fête, ce matin, on dirait un marin militaire avec ses gros tatouages, sa marinière sous une veste kaki, l'autrice Joyce Ormond, invitée de Boomerang, pour évoquer un projet littéraire absolument passionnant, on l'a compris, autour de ce qu'on nomme folie. J'ai remarqué que dans votre livre, il était sans arrêt question de distance, Joy, de trouver la bonne distance avec le patient, de garder ses distances, de mettre à distance. En quoi, pour vous, écrire, c'est justement chercher la bonne distance ?
C'est exactement ça, c'est chercher la bonne place et chercher la bonne distance, c'est-à-dire comment produire une écriture empathique, c'est-à-dire qui puisse toucher l'autre, puis toucher le lecteur, qui puisse comprendre quelque chose de l'autre et le restituer. Si on est trop près, on voit pas, si on est trop loin, on voit plus, on n'entend plus.
Et là précisément, c'était quoi la bonne distance ?
Eh bien, la bonne distance, il fallait sans cesse que je la réinvente, justement, en fonction des interlocuteurs et des pathologies. Si vous êtes face à un schizophrène extrêmement angoissé, il faut vous tenir loin. Si vous êtes face à un bipolaire qui a besoin, à ce moment-là, d'affection, d'écoute, il faut se rapprocher un peu plus. Parfois, je me permettais de poser une main sur un avant-bras. J'essayais de faire confiance à mon intuition. Mais c'est vrai que comprendre la folie, ça n'est pas possible. Donc, on ne sait jamais ce que vont provoquer nos gestes et nos paroles.
Et vos paroles et vos mots, précisément, parce que ça a forcément eu une incidence, cette distance, sur vos mots, sur vos phrases, sur votre écriture.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, j'essayais, pour avoir la bonne distance avec mes interlocuteurs, de les emmener dans ma phrase. C'est-à-dire que l'essentiel du livre est à la première personne, le jeu, mais on passe sans cesse du jeu de la narratrice, moi, au jeu d'un patient, au jeu d'un soignant, dans le même mouvement, dans la même coulée de lave, et c'était la façon pour moi, oui, de trouver la juste distance, c'est-à-dire de nous emmener ensemble.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel poids ont les mots quand ils sont prononcés dans une unité psychiatrique, parce que je suppose qu'ils n'ont pas le même poids, pas la même valeur, pas la même résonance non plus.
Oui, il y avait une infirmière qui me disait passer devant un psychotique et lui dire « comment ça va ce matin ?» ce qui paraît être une phrase totalement anodine, peut provoquer un effondrement et une violence inouïe. Dire à un psychotique « ça va », il le prend au premier degré, précisément, et il peut se demander comment il va, se le demander profondément, se le demander sincèrement, violemment, et s'effondrer. Donc même ça va, vous pouvez tuer quelqu'un.
Vous l'écrivez, à l'hôpital psychiatrique, chaque parole prononcée a des conséquences réconfortantes ou délétères, sans qu'on puisse toujours les mesurer, sans qu'on puisse juger si les mots apaisent ou déchirent. Pour autant, dans quelle mesure la parole et les mots ont-ils quand même, à votre avis, le pouvoir de soigner, Joyce Ormond?
Oui, alors la parole, je dirais que c'est le premier outil du soin. Alors je le dis pas parce que je suis une spécialiste, mais parce que nombre de soignants me l'ont dit. Et l'âge d'or de la psychiatrie dont on parlait tout à l'heure, c'est l'âge d'or de la parole. C'est vraiment le moment où on se dit, les médicaments ça aide, l'enfermement ça peut aider, mais on voit bien que l'essentiel c'est le lien, c'est la relation et c'est la parole. Alors la parole, elle est pas toujours bonne. Il y a des infirmiers qui me disaient parfois, ils en peuvent plus qu'on leur parle et qu'on leur demande de parler. Ils veulent juste du silence. Mais ce qui est dramatique à l'hôpital aujourd'hui, c'est précisément le retrait de la parole, la disparition de la parole, de la culture psychanalytique, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'a plus l'argent, parce qu'il n'y a plus assez de monde.
Oui, vous évoquez quasiment une crise du langage. Je pense à ces pages où vous restituez le compte-rendu de consultation d'un psychiatre qui grouille d'une suite d'expressions comme tableau dépressif d'allure mélancolique, ralenti, bradypsychique, subagressivité. Cette langue de la psychiatrie, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous ?
Elle raconte un savoir et une violence, pour être dans les traces de Foucault dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique, c'est aussi un ring sur lequel s'affrontent deux langues. La langue délirante, métamorphosée de la folie, et la langue extrêmement froide, protocolisée, hein, une espèce de lexique comme ça, obscur, de la langue psychiatrique qui vient... enfermé justement dans un verbe très particulier qui vient enfermer les individus, qui vient prononcer des sentences. Vous êtes bipolaire, vous êtes psychotique. Donc c'est une langue extrêmement autoritaire qui est toujours, pas toujours bien vécue par les patients.
Et quelle est au fond pour vous la langue de la folie ? Vous l'avez un petit peu décrite, mais j'aimerais que vous alliez plus loin de ce que vous avez pu observer.
La langue de la folie, c'est une langue de la fiction, en fait. C'est aussi pour ça que c'est un sujet passionnant pour un écrivain.
Oui.
C'est-à-dire que je parle de... Il y a un personnage assez récurrent que j'aime beaucoup, qui s'appelle Franck, qui se prend pour un loup-garou. Il y a Youssef, qui se prend pour le soldat inconnu. Il y en a qui entendent les voix de leurs ancêtres leur parler dans la tête. Donc, la folie, c'est toujours l'invention d'une réalité, la métamorphose de la réalité. Donc, à partir de là, je dirais que c'est... une langue poétique, alors pas au sens romantique du terme, mais au sens créatif, c'est-à-dire qu'on réinvente le monde.
Vous avez écrit un texte ce matin, Joyce Ormond, et j'aimerais que vous nous le lisiez. C'est un texte sur une rencontre, si vous le voulez bien.
Avec joie. Je m'appelle Mars. C'est ainsi qu'elle s'est présentée alors que je lui tendais une cigarette. Et se nommer, c'était me remercier. Elle m'a proposé une gorgée d'oasis en échange de la clope, estimant le troc équitable. A sorti la bouteille entamée de son immense cabas, ces cabas sans fond qui contiennent des vies sans fond elles aussi. Elle insistait, j'ai dû décliner à plusieurs reprises, vaguement honteuse. Je connais Mars depuis longtemps. Je la connais de vue, une figure de mon quartier. Un personnage imposant, une ogresse au sourire inaltérable, même dans les bourrasques de l'hiver, à peine abritée par l'auvent du traiteur asiatique. Mars qui monte et descend le long du caniveau. Mars assise devant le super-U, haranguant les passants avec douceur. Mars et la multitude de voix qui se pressent sous sa croûte crânienne. Croûte que j'imagine maintenant faite de la même matière que la planète éponyme. Rouge, gelée, tellurique. Mars qui ne saurait dire elle-même depuis combien de temps elle est à la rue. Dans cette portion de rue commerçante, sédentarisée entre les bains-douches municipaux et le petit hôtel des voyageurs qui loue ses chambres au mois. La révélation de ce nom prodigieux, je m'appelle Mars, a épaissi le mystère de cette femme autant qu'elle m'a rendu sa silhouette plus familière encore. J'ai alors pensé au travail du collectif des morts de la rue, qui patiemment recueille, conserve et salue leur mémoire, c'est-à-dire leur nom. Un jour peut-être, quelqu'un devra leur communiquer ce drôle de patronyme. Aimanté par ce nom, sa sonorité qui claque, son incongruité, j'ai songé qu'il était aussi celui du réveil des forces de la nature, de la sortie de l'hiver. Le mois de mars, l'arrivée du printemps. Mars ne désignait plus seulement la quatrième planète du système solaire, mais le renouveau, la montée de Sève. Mars enfin annonçait une dernière chose. Dans la mythologie romaine, c'est le dieu de la guerre. J'ai alors pensé que la folie, ça pouvait être ça. Une planète, une saison, une bataille.
Cette planète, dans quelle mesure avez-vous eu le sentiment d'y avoir accès, Joyce Ormond?
Alors j'ai aluni sur cette planète pendant une année. Ça a été difficile, comme je disais tout à l'heure, d'y arriver. Mais une fois que j'y étais, et je remercie d'ailleurs les soignants pour ça, j'avais le droit de circuler absolument. Donc j'ai vraiment pu arpenter les services en toute liberté. Après, je pense que je n'ai aperçu que de toutes petites choses. Senti à un moment dans le livre, je dis que quand j'étais là-bas, j'essayais de faire baisser ma raison discursive et faire monter l'intuition pour essayer de capter tous les petits gestes, tous les petits signaux de la folie. Donc voilà, j'en ai eu un aperçu.
Et rendre visible, rendre sonore ceux et celles qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, c'est pour ça que vous écrivez, somme toute?
Je ne sais pas si c'est pour ça, mais ça a quelque chose de très stimulant, de très satisfaisant, justement, d'aller là où le langage est peu utilisé et à peine audible, de faire monter une parole qui auparavant était silencieuse.
Merci infiniment, en tout cas, Joyce Ormond, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'À la folie, votre nouveau livre, est publié aux éditions Flammarion. C'est une très grande réussite, à mon avis. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Anouk Roche et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, les médias, Sonia Devillers et son Instant M, juste après ça.
Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du fait dans la voix. Le plus souvent c'est quand je pense à toi. I've got a fever, can you check? And on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Cause I don't really wanna cool it down.
Angèle et Dua Lipa sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia.
Et lundi à cette heure-là, Augustin, on viendra de finir d'écouter Barack Obama, Mr. President.
On fera un joli passage d'antenne tous les deux, tiens.
Ouais.
Bon.
En anglais ?
On le fera en anglais si
on
vous voulez.
On le fera en anglais. Je vais préparer, j'ai trois jours pour préparer.
Ça
salut
marche.
Augustin.
Salut Sonia.